Quelle est la première conséquence immédiate de ça? C'est que vous voyez bien qu'au moment où on va calculer vos droits, si ici on revient en arrière de 10 mois et demi, ces heures-là ne vont pas compter dans le calcul. Si on se décale parce qu'on n'a pas trouvé les 507 heures et qu'on revient en arrière là, ces heures-là ne vont pas compter dans le calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces heures que l'on perd, soit ici, soit là, suivant le moment où on en est dans le calcul, sont soit des heures où vous avez été bien payé, soit des heures où vous avez été mal payé. Ça veut dire que si on calcule vos 507 heures et vos droits sur une période où des heures où vous avez été bien payé, tant mieux pour vous. Si on tombe sur des heures où vous avez été mal payé, tant pis pour vous. Ça veut dire que immédiatement, de façon aléatoire, puisque ça va dépendre, on va trouver les 507 heures que sur une période où il y aura une densité, entre guillemets, de travail suffisante. Ça veut dire que de façon aléatoire, ça veut dire en fonction de la manière dont sont répartis vos contrats, on va tomber soit sur des bonnes, soit sur des mauvaises heures. Ça veut dire que ça induit immédiatement un phénomène d'inégalité très très fort entre deux personnes qui, par exemple, ont travaillé à peu près de la même manière, ont eu à peu près le même revenu global sur l'année, avec le même type d'employeur, simplement les périodes de travail sont pas au même endroit. Et bien ces deux personnes-là peuvent se retrouver dans des conditions d'indemnisation radicalement différentes. Voilà, c'est le premier point qui nous paraît complètement en contradiction avec l'idée de discontinuité de revenus, d'irrégularité de période d'emploi et de montant de salaire.
À quel point ce que vient d'expliquer Antoine est désastreux, c'est que entre deux personnes, il y a une personne qui s'est amusée à prendre l'exemple, à construire l'exemple suivant, entre deux personnes qui auraient travaillé exactement de la même manière, payées au même niveau, il suffit qu'il y ait, elle a réussi à trouver un cas où il suffirait que ces deux personnes, une ait travaillé le 24 mars, l'autre à la place du 24 le 31, et l'une des personnes pourrait être admise à l'assurance chômage et l'autre ne le serait pas, alors qu'elles auraient les mêmes niveaux de salaire, etc. Donc c'est vraiment un système où le hasard vraiment dirige les choses.
Alors, ce que j'aimerais petite remarque là-dessus, c'est que l'UNEDIC a sorti évidemment des exemples qui marchent. On ne conteste pas du tout le fait qu'il y a des gens qui vont bien sûr tout à fait être admis dans ce système et que ça va fonctionner pour eux. La seule chose qu'on souligne, c'est que c'est complètement aléatoire et que ça peut être totalement inégalitaire d'une personne sur l'autre. Voilà, c'est ça le point central.
Et alors Renaud Marie, metteur en scène, coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Alors je vais vous expliquer un autre point, un petit peu différent, mais qui implique, on va dire, un investissement encore plus catastrophique du précédent. Alors, ce point s'appelle le décalage. Je note. Voilà. Le décalage, c'est quoi? C'est la manière avec laquelle on va calculer les jours indemnisables ou non dans le mois en fonction de votre période de travail. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Si on a 30 jours, si vous travaillez 2 jours, c'est travail, on vous indemnise 28 jours. Ce qui est assez logique. Actuellement, ça se passe comme ça. À la fin du mois, vous déclarez, j'ai travaillé 2 jours, on considère que vous avez travaillé 2 jours sur 30, on va vous payer 28 jours d'ascétique. Ça, c'est clair. Alors ça, c'est fini. Maintenant, dans le nouveau système, ce qui va se passer, on va appliquer une formule mathématique qui s'inscrit comme ça. 30 ou 31 ou 28, hein, si c'est le mois de février, ou 29, les années bissextiles, moins le salaire mensuel du mois divisé par votre salaire journalier de référence. Ça fait rien à voir avec ça. Alors j'explique. Le salaire mensuel du mois, c'est assez clair. C'est la première révolution. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, sur votre bulletin ascétique, vous allez noter le nombre de jours travaillés, mais aussi pour combien vous avez travaillé. C'est une chose qui était qu'on faisait il y a quelques années, qu'on ne faisait plus ces derniers temps et qui est réinstaurée. Ensuite, le SJR, j'ai un petit mot, le salaire journalier de référence. Vient dire ce que ça veut dire, en fait, c'est l'ensemble de vos salaires donnés sur une période divisé par le nombre de jours travaillés. Simplifié, c'est ça, ils obtiennent un salaire moyen journalier. Le problème, c'est que ce salaire journalier de référence, si là, c'est le temps zéro, où on calcule vos droits et vous rentrez dans une nouvelle période d'indemnisation et période de travail, votre SGR, il est calculé sur la période qui a précédé. Là, en avant. Ici, le SGR. Voilà. Sur toute cette période, vous avez travaillé, donc sur les 10 mois ou 10 mois et demi précédents, on calcule un SGR moyen, c'est-à-dire un salaire moyen par jour, et ce salaire, vous êtes applicable à partir du temps zéro où vous ouvrez vos droits sur toute la période. Donc, si vous travaillez par exemple ici, sur cette période, expliqué Antoine tout à l'heure, qui pouvait faire 20 mois, qui peut être par exemple, si on imagine que c'est le mois de janvier, pour simplifier, que vous entrez dans le nouveau protocole au mois de janvier, réouverture de vos droits, que le SJR avait été calculé sur les 10 mois précédents le mois de janvier, et qu'ici, on regarde au mois, par exemple, on va dire au mois de juin. C'est-à-dire que ça, c'est le mois de juin. Vous travaillez là, on va se référer à votre SJR que vous avez sur la période de l'année précédente. Alors, je donne un petit exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? On imagine quelqu'un qui rentre dans le système avec un SJR d'à peu près 50 euros. Qui est un SJR assez faible. Un salaire moyen assez faible. C'est-à-dire quelqu'un sur la période d'avant a travaillé plutôt un acteur, par exemple, aurait travaillé avec plutôt des petites compagnies de théâtre, pas des gros budgets, pas extrêmement bien payé. Il a un salaire moyen comme celui-ci et il a travaillé toute l'année, il a même fait largement 16 heures, beaucoup plus que 507 heures en 10 mois et demi, etc. Très bien, banco, il rentre, ça c'est dit, je lui dis, vous avez vos droits, vous avez droit à vos 243e jours d'indemnisation. On arrive à cette période ici, qui est beaucoup plus tard, hein, ici c'était le mois de janvier, on imagine presque ici sur 20 mois, ça peut être le mois de février de l'année suivante. Là, il déclare qu'il a travaillé 2 jours à 300 euros la journée. Il est hyper content, il vient de travailler dans un film, il a un tout petit rôle, il avait une journée de tournage où il disait 3 phrases, il gagnait 300 euros, vous voyez, par rapport aux 50 euros qu'il a gagné en moyenne l'année dernière, cette personne est extrêmement contente. Mais bon, il a travaillé 2 jours ce mois-ci. Donc, il a gagné dans le mois 600 euros. On va lui appliquer cette formule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce mois pour déclarer les jours indemnisables? On va prendre 30, jours calendaires par exemple. On va diviser par l'ensemble du salaire mensuel, c'est-à-dire ces deux cachets à 300, c'est-à-dire 600. Et on va le diviser par son SJR de la période qui était là, c'est-à-dire 50. Puisqu'il est rentré dans ce système avec un SJR de 50. 600 divisé par 50, ça fait 12. Donc la formule devient 30 moins 12. Ça veut dire que cette personne, en réalité, déclare 2 jours travaillés. Et on va considérer, les assédiques vont considérer qu'il en a travaillé 12. Donc on va lui indemniser, non pas 28 jours, comme c'était ici, mais 30 moins 12, c'est-à-dire 18 jours. Alors là, je tiens à insister sur un fait, qu'il y a une nouvelle donnée, en fait, qui rentre en jeu. C'est-à-dire que la valeur d'une sorte de salaire moyen, qui est une idée de ce que vous valiez l'année précédente, c'est-à-dire que c'est une espèce d'instauration d'une sorte de grille de salaire, où on considère que sur le marché du travail, l'année précédente, vous valiez une certaine somme. Pour cette personne, 50 euros, c'est-à-dire pas beaucoup. Cette personne va toucher d'un coup plus, elle va être pénalisée parce qu'elle a plus gagné ce mois-ci. Une personne qui serait rentrée dans le système avec un SJR de 300 euros et non pas 50, qui déclare la même chose, 2 cachets à 300 euros, ici, elle va déclarer 600, ici, il va y avoir 300. Cette personne aura travaillé 2 jours et on va lui enlever simplement 2 jours, on va lui compter 2 jours de travail, donc on va lui indemniser, comme dans le cas précédent aujourd'hui, 28 jours. Est-ce que ça c'est clair? Ça veut dire que si vous rentrez dans le nouveau système avec un SJR faible, avec des salaires moyens faibles, vous allez être pénalisé sur toute la période. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'à chaque fois que vous travaillez, par exemple ici, c'est ces 2 cachets, admettons, qui étaient pris en compte, les 2 barres rouges. Pour les assédiques, ce n'est pas 2 cachets de travail, c'est 12 jours. Ce n'est pas 2 jours de travail, c'est 12 jours pour le cas de la personne qui avait un SJR à 50. Ce qui veut dire que ce n'est pas 2 jours qu'on n'indemnise pas, c'est 12. Mais ce qui veut dire, c'est que le jour où on va arriver au 243e jour d'indemnisation, on va réexaminer les droits. Il fuit un peu plus dans le temps, un petit peu plus loin à chaque fois. Parce que vous comprenez bien que si à chaque fois qu'il y a 2 jours de travail, cette personne est bien, touche bien sa vie cette année, on lui en indemnise 12, ces 12 jours sont non indemnisés, donc ne compte pas dans les 243 jours comment lui indemniser les assédiques. Il recule d'autant agrandissent d'autant la période que Antoine a dit tout à l'heure pouvait faire 20 mois. Donc cette période peut voir glisser de plus en plus, comme ça, vers une date, on ne sait pas trop quand. Et donc évidemment, rend de plus en plus accentue le côté aléatoire du système de manière très 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 forte. Voilà.
Ce n'est plus le temps effectif du travail qui est pris en compte, mais simplement le produit financier que vous a procuré votre travail. C'est vraiment une nouvelle considération du travail qui est proposée par ce protocole. C'est une sorte de cote, en fait, qui vous est attribuée.
Je voudrais savoir d'où vient cette notion de SJR. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un autre protocole de régime général ou c'est un truc qui a été complètement inventé? Là, je veux savoir d'où ça vient.
C'est quelque chose qui existe déjà dans le système actuel. Simplement, c'est une chose, effectivement, par rapport aux annexes générales au régime général de l'UNEDIC, c'est une chose qui est assez liée aux idées de grille de salaire, en fait. Un salaire journalier de référence moyen. C'est quelque chose qui reste de cet état de fait. À part qu'il n'intervenait pas, jusqu'à maintenant, le SJR intervenait, par exemple, dans le calcul de l'indemnité journalière, mais il n'intervenait pas dans le calcul du nombre de jours indemnisables dans le mois. Ça, c'est une grande nouveauté.
Le SJR, effectivement, c'est quelque chose qui existe déjà, et c'est aussi quelque chose qui est à l'origine d'un déséquilibre du système actuel. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que dans le système aujourd'hui, à salaire égal, il vaut mieux déclarer peu de cachets que beaucoup de cachets pour avoir des bonnes indemnités. C'est ce qui crée les grandes inégalités entre les gens, par exemple, qui sont mensualisés et les gens qui sont payés au cachet. Et c'est ce qui fait que les gens groupent leurs cachets. C'est ce qui fait qu'il y a de la résistance à la déclaration, quoi. Donc, le SJR, c'est vraiment une notion en elle-même qui n'est pas du tout adaptée à nos professions, et sauf que là, elle est instaurée à l'intérieur de ce protocole-là comme une valeur de référence, une valeur structurante de tous les mécanismes de ce protocole. C'est pour ça qu'on arrive à un point de rupture comme ça, quoi.
Et peut-être, juste pour que vous rendiez bien compte un peu du système combinatoire et de la répercussion en chaîne de ces éléments, c'est que donc le SJR devient un élément déterminant par rapport au calcul de vos droits, et ce SJR, on a bien vu avec l'explication d'Antoine, qu'il est calculé de manière aléatoire, parce que la période est d'une part rétrécie, elle ne prend plus en compte toutes les périodes travaillées, donc elle ne reflète pas vraiment véritablement votre activité dans sa globalité, et d'autre part, on a bien vu que si ça se trouvait, cette période allait tomber sur des périodes où votre salaire aura été moindre ou éventuellement très élevé. Donc il y a vraiment l'élément déterminant de l'ensemble des calculs est calculé vraiment de manière très aléatoire. Donc on voit bien que c'est à l'origine du système.
Oui, ce qu'il faut noter à cet endroit-là, c'est vraiment les gens extrêmement favorisés finalement par ce nouveau système. C'est les gens qui, par rapport au calcul du SJR, ont finalement un salaire assez constant, c'est-à-dire sur l'ensemble, pas d'évolution nette puisqu'ils ne seront pas pénalisés comme cette personne. C'est-à-dire que si vous êtes à 50 euros, si vous restez tout le temps à 50 euros, vous ne serez jamais pénalisé. Mais d'un autre côté, si vous étiez à 300 et vous restez toujours à 300 euros, vous ne serez pas pénalisé non plus par une augmentation. Donc finalement, les gens qui ont des salaires assez fixes, et surtout qui travaillent régulièrement tout le temps avec des cachets extrêmement espacés, bien espacés de manière très régulière sur toute la période, ce qui fait qu'il n'y a pas de grands regroupements de cachets, comme par exemple vous êtes sur une pièce pendant 3 mois ou sur un long métrage pendant un certain temps, ou un gros paquet pourrait d'un coup vous virer parce qu'on est remonté au contrat d'avant, les gens qui finalement ont des cachets réguliers, bien espacés sur toute la période de référence, avec un salaire moyen qui ne bouge pas, ces gens-là sont les seuls qui échappent à l'effet aléatoire du nouveau protocole. Vous voyez bien que des gens qui travaillent régulièrement au même cachet et le même nombre de cachets dans le mois, alors par définition, sont des intermittents du spectacle. C'est clair.
C'est pas aussi par définition les gens qui prennent partie des fraudes intermittentes dont je parlais tout à l'heure.
Tout à fait, c'est conduit dans la rue de renoncer.